Bonjour à tous et bonjour à toutes. Heureux de vous retrouver sur Radio Judaïka Strasbourg pour ce nouveau numéro talk show. Notre invité aujourd'hui, il est journaliste, politologue, il a écrit de nombreux ouvrages. Cette année, il y a de cela quelques mois, il a sorti un ouvrage sur le Hamas. Et là, il ressort un autre ouvrage sur le Hezbollah de Beyrouth à Paris. La milice prépare son retour aux éditions de Rocher. Je veux évidemment parler de Mohamed Sifavi. Bonjour Mohamed Sifavi.
Bonjour.
Merci
Bonjour.
D'accepter d'être notre invité. Juste avant, je vais vous rappeler que vous serez à Strasbourg le 19 mai prochain. Vous présenterez votre livre. C'est par l'association Autrement Dit. Et d'ailleurs, ce livre sera présenté avec mon ami Eric Vial. Ce sera donc le 19 mai à 20h, salle Mozart, rue du Miroir à Strasbourg. Et vous pouvez évidemment réserver. Alors, c'est conférence msifavi@orange.fr. On redonnera les coordonnées à la fin de cette émission. Mohamed Sifavi, le Hamas, le Hezbollah, on peut les comparer les deux ?
Oui, bien sûr. Alors, ils ont un point commun qui est important, c'est le lien qu'ils entretiennent avec les mollahs iraniens. J'ajouterai aussi le djihad islamique qui agit principalement à Gaza également, qui a été un des acteurs du 7 octobre, des attentats du 7 octobre 2023. Les autres points communs, c'est des objectifs similaires, une volonté de détruire l'État d'Israël et de causer un maximum de dégâts. Évidemment, l'antisémitisme qui caractérise ces deux organisations islamistes, même si l'une, le Hezbollah, est chiite, et l'autre, le Hamas, ou les autres, le Hamas et le djihad islamique, sont sunnites. Donc, au-delà de ces différences, je dirais, de doctrine, qui deviennent secondaires dans le contexte moyen-oriental, il y a une synergie qui a été mise en place, notamment sous la férule des gardiens de la révolution iranienne, pour encercler d'une certaine façon, par le nord et par le sud, l'État d'Israël et l'étouffer par une guerre d'usure qui, évidemment, a connu son apogée à la fois avec les attentats du 7 octobre et par la suite avec la guerre de harcèlement qui a été lancée par les troupes du Hezbollah et les milices. Et les missiles plutôt du Hezbollah avant que l'armée israélienne ne réagisse.
Alors, on va revenir évidemment sur tout ce que vous dites dans le livre. Ma première question, c'est que vous avez voulu, dans le début du livre, déjà mettre des jalons, notamment l'ambivalence des autorités françaises face au Hezbollah. En deux mots, vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ?
La chose est très simple. La diplomatie française agit et tente de garder son influence sur le Liban depuis maintenant plusieurs années, depuis la création du Liban moderne et depuis l'indépendance de ce pays. La France a toujours voulu garder une influence. Et malgré la présence de cet acteur terroriste qui est le Hezbollah, qui, je le rappelle évidemment, a visé y compris des soldats français durant les années 80,
Dracar,
et
notamment.
Participé à des attentats sur le territoire français durant la même période. Malgré tout, les autorités françaises ont toujours voulu garder une sorte de ligne qui leur permettait ou qui leur permet de continuer d'avoir un peu d'influence dans le champ politique libanais. Et cette politique, cette ambivalence se traduit par le refus de considérer le Hezbollah dans sa globalité comme une organisation terroriste, étant donné que la France estime, à tort, que seule la branche militaire du Hezbollah doit être considérée comme terroriste, alors que tout l'appareil du Hezbollah est au service de l'action terroriste.
Vous l'expliquez dans le livre, en fait, le Hezbollah a une direction générale qui donne toutes les indications politiques et militaires qui sont évidemment dirigées par les gardiens de la Révolution et l'Iran. Au début du livre également, vous avez voulu refaire un peu l'histoire du Liban. Pourquoi c'était important, cette partie-là ?
Parce que, disons que c'est un peu ma façon de faire. À chaque fois, pour moi, la contextualisation historique est extrêmement importante pour que le lecteur comprenne d'où viennent ces organisations et d'où provient la complexité de ce dossier libanais et d'où émanent, je dirais, toutes les difficultés que l'on connaît face à une organisation comme le Hezbollah et pourquoi c'est devenu à la fois un acteur majeur au Liban, mais aussi d'une certaine façon un État dans l'État libanais. C'est parce que il y a cette histoire qui est souvent méconnue, donc j'ai voulu évidemment la rappeler l'histoire des chiites du Liban et rappeler la genèse qui a donné lieu à la naissance du Hezbollah au début des années 80, en pleine guerre civile.
Alors, le Hezbollah, en fait, vous le dites au départ et dans le livre, très, très justement, il faut savoir que le Hezbollah a commencé par des actions humanitaires et puis après a étendu, évidemment, ses activités. C'est un peu là aussi en rapport avec le Hamas. On commence par aider les gens et puis après, on les embrigade et on les a même au théâtre, vous êtes d'accord avec moi ?
Oui, bien sûr, mais c'est quelque chose qui est essentiel dans la stratégie de quasiment l'ensemble des mouvements islamistes. L'action sociale est extrêmement importante, comme l'action propagandiste l'est aussi. Et c'est la raison pour laquelle il faut essayer d'étudier et de comprendre toute cette complexité dans sa globalité. Le Hezbollah comme le Hamas ne sont pas uniquement réduites à des branches armées. Et d'une certaine façon, si ces organisations, pour ne citer qu'elles, finissent par avoir le poids qu'elles ont, et il faut voir avec quelles difficultés. Une armée quand même très puissante. L'armée israélienne fait face à ces oppositions terroristes, et parce qu'elles font système. Parce que ces deux oppositions terroristes font système. Elles ne sont pas uniquement des groupes terroristes, ce sont des systèmes de gouvernance qui reposent sur le terrorisme. C'est le cas du Hamas, qui a un ancrage à la fois idéologique et social extrêmement important dans le corps social gazaoui, et de la même manière, le Hezbollah est totalement ancré dans la vie libanaise, et notamment dans celle des chiites libanais. Mais je ne dirais pas seulement, puisque on sait que à l'époque, en tout cas, de Hassan Nasrallah, la milice a su tisser des liens, je dirais parfois contre nature, notamment avec les maronites, et notamment avec les chefs maronites. On parle souvent de la relation qu'a tissé le général Michel Aoun, pourtant chrétien, avec Hassan Nasrallah.
Mais le président actuel du Liban.
Pardon ?
J'ai dit le président actuel du Liban.
Non, Michel Aoun.
Ah,
celui
du
président actuel du Liban, c'est Joseph Aoun, qui est plutôt opposé au Hezbollah. Mais Michel Aoun, l'ancien général, homme fort de l'État libanais pendant quelques années, il avait été notamment exilé en France, avait tissé des liens privilégiés avec le Hezbollah, et ça s'est joué énormément sur le rejet de l'État d'Israël. Donc le Hezbollah a su aussi dépasser, dans le cadre de ses alliances, le simple cadre, je dirais, d'abord chiite, et évidemment, dans ses alliances internationales, il a su aussi dépasser le seul cadre musulman, puisque le Hezbollah a tissé des liens, certes, avec des entités ou des États sunnites, mais au-delà, en Amérique latine, notamment avec des régimes comme le Venezuela ou la Bolivie, où ils ont réussi à avoir un ancrage, y compris localement.
Alors, ce qui est important aussi, c'est que vous le dites dans le livre également, donc il faut vraiment dire ce livre-là, c'est que la création justement du Hezbollah, c'est une création totale de l'Iran. C'est un proxy, c'est un petit Iran. Ça permet à l'Iran de se cacher derrière une petite armée. C'est ça aussi le principe ?
Le régime iranien a voulu très vite asseoir sa domination sur le Liban. Donc, il a privilégié et favorisé la création à la fois du Hezbollah, qui lui était totalement inféodé. Et évidemment, par la suite, il en a fait un proxy pour peser régionalement et notamment face à Israël. Et par la suite, évidemment, en un troisième temps, le Hezbollah est devenu l'acteur le plus important dans une stratégie d'encerclement qui a visé deux pays, l'Arabie Saoudite et Israël. Hein? Et cet encerclement s'opère par plusieurs proxys, dont les fameux outils dont on parle aujourd'hui au Yémen, des milices chiites en Irak et en Syrie, évidemment le Hezbollah, mais aussi à Gaza, le djihad islamique et le Hamas, et évidemment toutes les ramifications internationales qui sont celles à la fois du régime iranien et du Hezbollah.
Notre invité est Mohamed Sifawi, Hezbollah de Beyrouth à Paris. La milice prépare son retour aux éditions du Rocher. Mohamed Sifawi, pourquoi ce titre ? Pourquoi de Beyrouth à Paris ?
Pour rappeler que le Hezbollah est une milice qui n'est pas installée uniquement au Liban, mais qui a des ramifications, je dirais, tentaculaires, qui vont en Afrique, en Amérique latine, en Europe, bien sûr, et dans plusieurs pays arabo-musulmans. Et évidemment, pour dire aussi que depuis la fin des hostilités, c'est-à-dire au moment du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah en décembre 2024, la milice s'est consacrée à renaître, je dirais, et à se remettre sur pied après les coups assénés par l'armée israélienne qui, il faut le rappeler, a réussi à tuer le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et à affaiblir ou asséner des coups terribles à la principale force d'élite du Hezbollah, en l'occurrence la force El Redouane, qui était connue pour ses opérations d'infiltration, y compris derrière la frontière, et évidemment en démantelant plusieurs unités qui étaient chargées des tirs de roquettes et de missiles en direction du territoire israélien. Donc depuis cette époque, c'est-à-dire durant les 6 derniers mois, le Hezbollah s'est attelé à se reconstruire, à reconstruire d'abord ses différentes unités affaiblies et à se refinancer, à se recapitaliser, parce que la force du Hezbollah, c'est aussi le budget dont il dispose.
C'est la question que je voulais vous poser. Dans le livre, il y a une grande partie, vous dites en fait, le Hezbollah, c'est une machine à cash. Il y a énormément d'argent qui vient d'où ?
Absolument. Il y a le Hezbollah est une organisation qui fonctionne comme un État dans l'État. Donc c'est une organisation qui a besoin de beaucoup d'argent, d'abord pour s'armer, pour entretenir ses affidés, pour faire son action sociale, pour mener sa propagande. Le Hezbollah, ce sont des chaînes de télévision, des chaînes de radio, des journaux, ce sont des unités combattantes, ce sont des personnes disséminées aux quatre coins de la planète, ce sont des actions sociales, des actions éducatives, c'est aussi un soutien aux familles, comme ils disent, des martyrs, c'est-à-dire des terroristes qui sont tombés pendant les combats, c'est l'entretien des orphelins qui sont à la charge du Hezbollah, c'est aussi la reconstruction d'une partie des destructions qu'engendraient les bombardements israéliens. Donc le Hezbollah a besoin de beaucoup d'argent. Alors cet argent, on sait, aujourd'hui c'est documenté, les services de renseignement israéliens et occidentaux arrive à plus ou moins chiffrer avec une certaine précision. On estime jusqu'à 2 milliards de dollars le budget dont dispose le Hezbollah annuellement. Alors une grande partie, près de la moitié, est assurée par le pétrole iranien et l'autre moitié est assurée à la fois par les dons, les raquettes. Le Hezbollah agit comme un système mafieux, donc il raquette énormément les Libanais, notamment les familles richissimes et les hommes d'affaires, y compris non chiites. C'est aussi l'implication, une grande implication de la diaspora chiite à travers notamment divers trafics, mais aussi à travers des commerces totalement légaux où évidemment une partie est versée. Il y a un aumône qui est appelé Homs en arabe et qui, dans la doctrine chiite, oblige toute personne à donner un cinquième de ses biens annuellement, c'est tout ce que de son épargne plus précisément. Donc ce sont des sommes très importantes qui finissent dans les caisses du Hezbollah, qui est arrivé à créer un système financier propre, une banque, mais aussi des bureaux de change. Tout un système financier qui lui permet, encore une fois, de financer ses activités. Alors, ce système financier a été mis à mal d'abord par les actions de la Fed, l'institution bancaire américaine, qui craque justement, notamment les questions de blanchiment d'argent, et à travers, évidemment, des actions qui ont été menées aux quatre coins du monde, là aussi, pour démanteler l'architecture financière du Hezbollah, en tout cas pour la déstabiliser. Et là, actuellement, l'enjeu, c'est d'arriver à empêcher le régime iranien à continuer de financer le Hezbollah. C'est un objectif très important. Donc c'est la raison pour laquelle on observe, par exemple, qu'aujourd'hui, des pays comme des régimes comme la Turquie ou d'Erdogan ou comme le régime qatari tentent d'une certaine façon, c'est pas totalement documenté, mais il y a des indices qui le montrent, de suppléer à ce financement iranien qui est perturbé par à la fois les sanctions. Pression qui est mise par les États-Unis et par Israël.
Alors, il y a une question que je voulais poser, c'est qu'on a présenté le Hezbollah comme une organisation extrêmement forte, et pourtant, quand il y a eu les événements de la fin de l'année dernière, Israël a réussi assez facilement, entre guillemets, à mettre un sacré coup d'arrêt au Hezbollah. C'est le Hezbollah qui a été plus fort ou moins fort, ou c'est Israël qui a mis la pression?
Non, je pense que, évidemment, le Hezbollah est une organisation très forte. Il ne faut surtout pas la sous-estimer, qui continue d'ailleurs d'être forte. Hein. Encore une fois, moi, je pense que ceux qui la donnent pour morte ont tort, parce que le Hezbollah a montré une capacité de résilience, je dis bien résilience, c'est-à-dire de se remettre sur pied, assez importante. Non, à partir de septembre 2024, c'est Israël qui a mis les moyens, mais je pense qu'Israël s'est préparé depuis l'expérience malheureuse de 2006 où l'armée israélienne n'avait pas réussi véritablement à vaincre. Israël n'a pas perdu la guerre, mais elle n'a pas gagné non plus la guerre face au Hezbollah en 2006. Et donc l'armée israélienne a tiré beaucoup d'enseignements et qui avait, d'une certaine façon, la constitution d'une boîte à objectifs, pour reprendre l'expression militaire, c'est-à-dire une série d'objectifs prioritaires à viser en cas de nouveau conflit avec le Hezbollah. Donc, contrairement à l'attitude qu'a eu Israël face au Hamas et au djihad islamique, où je pense qu'ils ont sous-estimé leur capacité, là, pour le coup, Israël s'était totalement préparé à une éventuelle guerre face au Hezbollah et savait pertinemment à quel moment il fallait frapper et qui il fallait frapper pour déstabiliser l'organisation. C'est ce qui a été fait, c'est-à-dire avec un engagement au regard des résultats, avec un engagement assez minimaliste, puisqu'il a été question de raids aériens importants, surtout, qui ont été les plus efficaces. L'armée israélienne est arrivée à décapiter d'une certaine façon une bonne partie de l'architecture dirigeante des cadres du Hezbollah. Ouais. Et de ce point de vue, je pense que cette réussite n'a été possible que parce que l'armée israélienne s'était bien, bien préparée pour cette éventualité.
La suite et la suite de cette opération, c'est un accord de paix. C'est aussi, là aussi, la suite logique de ce qu'il va avoir, c'est-à-dire un accord de paix qui ne va pas trop durer.
Non, je pense qu'il faut apprécier la chose dans sa globalité. Il y a, à mon avis, une action militaire à terminer à Gaza pour en finir avec le Hamas et le djihad islamique et essayer de récupérer un maximum d'otages vivants, mais en tout état de cause, en finir avec le Hamas en tant qu'organisation terroriste, c'est-à-dire en tant que force militaire et en tant que force politique. Ça, c'est stratégiquement, moi, j'ai toujours dit, c'est quelque chose de très important. Et le deuxième point, c'est évidemment arriver à, avec l'aide des Américains notamment, mais peut-être aussi avec l'aide des Français, à procéder à la démilitarisation du Hezbollah et donc à son extinction en tant que force politique et militaire. Parce que et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle le Hezbollah refuse d'être démilitarisé, parce que les chefs du Hezbollah savent très bien qu'ils ne sont plus rien sans les armes. Exact. Et que le Hezbollah n'est plus rien sans les armes. Et il n'intéresse pas les cadres du Hezbollah de devenir un simple parti politique, parce qu'il n'a jamais été un simple parti politique, il n'a jamais voulu être un parti politique. Ce que veut le Hezbollah, pour reprendre son narratif, et je mets entre guillemets, c'est être un groupe de résistance face à Israël. Et donc sa résistance armée, évidemment. Donc cette milice n'acceptera jamais d'être désarmée. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut accentuer la pression sur le plan politique et sur le plan juridique, judiciaire plutôt, au niveau international, pour démanteler les différentes cellules, y compris en France, qui travaillent pour le compte du Hezbollah, et évidemment arriver à assécher ses sources de financement pour assécher aussi son armement.
Alors, Mohamed Sifavi, vous êtes politologue, on l'a dit en début d'émission. J'ai une question à vous poser. Depuis quelques jours, le président Trump signe des accords avec l'Iran, signe des accords avec le Yémen. Qu'est-ce qu'il fait, Trump, là ?
Il dit pas qu'il fait du Trump. J'allais dire, il fait du Trump. C'est-à-dire qu'une façon de faire de la politique assez atypique et qui n'est pas tout le temps toujours efficace, qui peut l'être, cela dit, et qui peut l'être, puisqu'elle n'obéit à aucune règle, à aucune logique, et ça déstabilise évidemment ceux qui sont habitués.
On ne peut pas annoncer à sa campagne qu'il veut arrêter l'Iran et le lendemain faire un accord à minima sur l'Iran.
Oui, non mais ceux qui travaillent sur Donald Trump savent que c'est quelqu'un qui n'aime pas la guerre. Et il se trouve que lorsqu'on fait de la géopolitique et dans les relations internationales, on comprend que parfois la guerre est nécessaire pour justement stabiliser une région à terme ou pour garantir une paix durable. Je pense que Donald Trump fait une erreur monumentale en considérant le régime iranien comme un interlocuteur sérieux. Ce que fait le régime iranien, c'est d'essayer de gagner du temps. Et donc, je ne serais pas surpris de voir que le régime iranien a tout simplement manipulé ou fait des promesses qu'il ne tiendra pas face à Donald Trump. Je pense que Donald Trump mésestime totalement le double discours de ces gens-là, c'est-à-dire notamment les organisations chiites, extrémistes. Et de ce point de vue, on ne peut pas dire que ses supporters n'étaient pas avertis. Parce que tous ceux qui pensaient que Donald Trump, me semble-t-il, allait être comme un messie, le sauveur de la paix et de la planète et le sauveur d'Israël, à mon sens, se trompent. Parce que Donald Trump, d'abord, est quelqu'un qui n'a aucune expérience politique et notamment géopolitique. Et de ce point de vue, il tâtonne. Il fait un peu comme quelqu'un qui ne connaît absolument rien à la chose industrielle et que vous mettez dans une usine. C'est-à-dire, il va toucher les choses et peut-être arriver de temps en temps à faire fonctionner une machine un peu par hasard et d'autres fois à se couper le doigt. Voilà ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire que parfois, en tâtonnant, il va peut-être faire marcher une machine, mais quelques minutes plus tard ou quelques jours plus tard, il va se couper un doigt.
Alors, il y a aussi dans le monde politique en Israël et ailleurs, qui estime que le gros problème, c'est l'Iran. Il faut attaquer l'Iran. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette politique ?
Moi, je pense que attaquer l'Iran doit être une solution ultime. C'est-à-dire que l'attaque d'un régime ne doit pas se faire avant de réaliser, de réfléchir ou de mettre sur la table un certain nombre de choses. La première des choses, c'est quelle alternative ? Attaquer l'Iran, avec quelle alternative ? Est-ce que c'est pour fragiliser le régime iranien ? Est-ce que c'est pour démanteler ses capacités militaires ou sa capacité de recherche nucléaire ? Est-ce qu'on a la certitude que techniquement, une attaque massive contre l'Iran permettra au régime, de voir que le régime perd ses capacités, notamment sa partie nucléaire ? Ça, c'est une chose qui est essentielle. Politiquement, il faut voir s'il y a une alternative. Si la jute, je ne pense pas qu'un bombardement suffirait à faire tomber le régime iranien.
Un peu plus.
Je ne pense pas, parce que évidemment, ces régimes sont extrêmement forts, sont beaucoup plus forts que ce qu'on croit, et c'est pas par une méthode couée qu'on va y arriver. Mais cela étant dit, je ne mettrai pas l'option de l'attaque militaire comme quelque chose qu'il ne faut pas poser sur la table. Je pense qu'il faut poser sur la table, voir jusqu'où peuvent aller des négociations, et si les négociations n'aboutissent pas, si on a la certitude que les négociations n'aboutissent pas, à ce moment-là, il faut démanteler la capacité iranienne à produire de l'uranium et à fabriquer évidemment une bombe sale ou une bombe atomique.
Voilà, si vous voulez en parler, vous serez, on l'appelle, à Strasbourg le 19 mai à 20h à la salle Mozart, à rue du Miroir à Strasbourg. Vous allez parler de quoi, Mohamed Sifavi, pendant cette soirée de votre livre ?
Ah, je parlerai évidemment de mon livre, puisque c'est pour ça que je suis invité, mais je sauterai sur l'occasion pour évoquer d'autres sujets. D'abord Gaza, on verra où on en est, parce que les choses vont évoluer probablement telles que je l'avais prédit dans mon livre, c'est-à-dire vers une guerre qui va aller jusqu'au bout. Et j'avais dit à l'époque, quand on me posait la question combien de temps prendrait cette guerre, on me posait la question en fin 2003, ouais. J'ai dit au minimum 2 ans. C'est au bas mot. Ouais. Moi, je ne vois pas la fin de la guerre avant la fin 2025, voire début 2026, et ça se profile. Et je vais expliquer pourquoi. Je vais sauter sur l'occasion pour parler de peut-être un peu de l'Algérie et de mon ami Boualem Sassa, ouais. Qui reste injustement emprisonné par cette dictature algérienne je vais essayer de mobiliser et de sensibiliser les gens aussi sur cette affaire.
Le 19 mai à 20h, le débat sera animé par mon ami Eric Vial. Pour éventuellement vous inscrire, s'il faut s'inscrire sur conference.msifaoui@orange.fr et vous pouvez évidemment vous ruer dans la bibliothèque pour le livre Hezbollah. De Beyrouth à Paris, la milice prépare son retour aux éditions du Rocher. Mohamed Sifavi, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.